Mon général, inspecteur général de la gendarmerie, les intervenants, chers amis, les membres du comité scientifique, les auditeurs, les présidents de séance, mesdames, messieurs, il serait prétentieux de ma part de faire en 15 minutes une synthèse des 30 communications auxquelles nous avons assisté durant ces deux jours, tellement riches, tellement variées. Aussi, l'exploit s'avérant impossible, en si peu de temps, d'autant que je vous confierai que les autres obligations liées à ce colloque ne m'ont pas permis d'assister à toutes les interventions, j'en suis désolé, mais j'attends comme tout le monde les actes pour m'informer un peu plus. C'était donc pas possible. Je conclurai donc autrement en essayant de répondre, ou plus précisément de proposer des réponses à quelques questions fondamentales. La première, qu'est-ce qu'une gendarmerie ? C'est vrai que l'on ne s'est pas posé beaucoup la question, parce que la réponse paraît acquise. Sans doute, mais encore faut-il en être certain. C'est pourquoi j'ai cherché une réponse dans une gendarmerie étrangère, suffisamment distante de la gendarmerie française, pour éviter la critique et la suspicion à l'encontre d'une définition qui serait d'une réponse qui serait un peu trop franco-centrée. Si vous me permettez ce néologisme. Je l'ai trouvé en abstraquant, dans un petit ouvrage paru en 2007, d'un historien juriste de l'université d'Astrakhan, intitulé « La gendarmerie d'Astrakhan dans la lutte contre l'espionnage ». Avant d'aborder le cœur de son sujet, l'auteur, Baïgouchkin, parcourt l'histoire de la gendarmerie russe, de ses origines à 1916, et très rapidement donne sa définition de la gendarmerie. Je le cite. Si on fait une analyse sans connotation émotionnelle ou idéologique, alors la gendarmerie, c'est une police ayant une organisation militaire et accomplissant des missions de protection à l'intérieur du pays et de l'armée. Bon. Eh bien oui, je pense que même si on peut ajouter ou préciser, mettre quelques bémols ou ce que l'on veut, cette définition est assez générale pour constituer une base commune, un plus petit dénominateur commun, comme dirait un mathématicien. Mais venons-en à la question la plus fondamentale, non pas celle du quoi, mais celle du pourquoi. Celle que l'on a posée en thématique générale de ce colloque. Pourquoi certains pays du monde ont-ils une gendarmerie? Pourquoi d'autres n'en ont-ils pas? Lorsque l'on examine la question au cas par cas, pays par pays, la réponse est moins évidente qu'il n'y paraît au début. Pour y accéder, j'ai essayé plusieurs grilles de décodage. La première tient au constat de la distribution géographique des pays à gendarmerie dans le monde. Il apparaît à l'évidence que la forte concentration de ce type de force dans les pays du Sud, Sud de l'Europe, Sud de l'Amérique, a un sens. Et qu'il y a un rapport entre le climat, les comportements qui en résultent et la présence ou la non-présence dans ces pays de forces de gendarmerie ou du type de gendarmerie. Nous voilà donc renvoyés à Montesquieu. Si Montesquieu ne parle ni de la maréchaussée ni bien évidemment de la gendarmerie, il pose cependant les bases d'une justification plausible. Je le cite, « Le premier des empires est l'empire du climat », c'est dans de l'Esprit des lois, livre 19. De ce postulat, il déduit, ce sont les différents besoins dans les différents climats qui ont formé les différentes manières de vivre, et ces différentes manières de vivre ont formé les différentes sortes de lois. C'est ce raisonnement qui le conduit à affirmer que le climat est le plus grand des déterminants, bien avant les religions, dans l'organisation des sociétés. Il explique que les comportements de ces groupes sociaux sont régulés par des lois qui peuvent donc varier, d'après lui, d'une nation à une autre, principalement en fonction du climat. Alors vous me direz, mais quel rapport avec la gendarmerie? Si l'on poursuit sur la voie de Montesquieu, on admet que la meilleure constitution de la force publique nécessaire au développement et maintien de la cohésion d'une collectivité nationale, c'est celle qui correspond le plus exactement possible au comportement dominant de ceux qui la composent. Comportement déterminé selon lui essentiellement par le climat. Il faut bien reconnaître que les nations du Nord et du Sud de l'Europe, par exemple, présentent au-delà d'un socle de valeurs communes, base de la construction européenne d'aujourd'hui, de réelles différences que certains utopistes et idéologues essayent de nier, mais dont il faut bien tenir compte. L'ordre et la discipline, indispensables à la bonne harmonie sociale, ne sont pas, Je m'en excuse aux gens des pays du Sud, mais pour avoir pratiqué la gendarmerie très au Sud, en pleine Méditerranée, l'ordre et la discipline ne sont pas les valeurs premières des pays du Sud. Ils en ont d'autres, hein, très appréciables, mais ce n'est pas les valeurs premières. Et quand on est gendarme et que l'on tourne de l'Est à l'Ouest et en plein Sud, on mesure alors là parfaitement la différence. Une force publique intérieure à structure et organisation militaire apparaît alors comme la meilleure garantie de stabilité de ces pays, la meilleure pour qu'ils puissent se prémunir de leurs propres excès ou déficiences. A contrario, dans les pays du Nord, où ces vertus sociales sont presque, ou au moins étaient, sont presque naturelles, une telle force ne se justifierait pas. Sans doute y a-t-il dans ce décodage une large part de vérité, mais cette analyse relève davantage de la géographie que de l'histoire. Or, l'histoire ne peut se satisfaire, pour comprendre et expliquer, d'une théorie, fut-elle des climats, fut-elle d'un brillant philosophe du XVIIIe siècle. Que disent les faits historiques? Sans nier le bien fondé de l'approche géographique, les gendarmeries sont souvent nées, comme d'autres institutions d'ailleurs, des circonstances, voire d'un concours de circonstances, une situation, un homme, une idée, une solution. La révolution comme situation, la nation comme idée, la gendarmerie comme moyen ou comme solution. Ça se répète dans de nombreux pays. D'où des développements à partir du modèle français, pour citer celui-là, par vagues, au gré des évolutions, des révolutions et des évolutions des situations. La vague napoléonienne, la vague des nationalités, milieu du XIXe siècle, la vague coloniale, la vague post-coloniale, et enfin la nouvelle vague, celle des 30 dernières années, dont on ne connaît peu de choses, sauf aujourd'hui grâce à des témoignages de nos intervenants de cet après-midi. Alors quittons cette approche factuelle et essayons un autre angle plus politique. Essaye de faire le tour de la question par différentes approches. Rapportons la gendarmerie à chacun des concepts politiques auxquels elle est liée, d'une manière ou d'une autre, l'État, la nation, le citoyen, les populations. Elle est accrochée à ces quatre concepts. L'État. Ben, je crois que l'on peut dire que la gendarmerie est indépendante de la forme de l'État. Pour ce qui concerne la France, par exemple, la gendarmerie, elle était royale, impériale, nationale. Il est intéressant d'examiner ce qui se passe, par exemple, pour les gendarmes français, quand la forme de l'État change. C'est une analyse qui est très, très intéressante, parce que comment se fait-il qu'en changeant de forme d'État, on a toujours une gendarmerie? Alors la gendarmerie, elle s'adapte de deux manières. D'une part, la remilitarisation, mais aussi l'épuration. Et quand on prend deux séquences de rupture, de changement d'État, 1815-1816, 1945-1946, on pourrait prendre aussi 1830, bon. Mais prenons ces deux-là, ce sont les plus significatifs. À quand même quelques décennies, pour dire quelques siècles, de distance. L'adaptation au nouveau régime se fait rigoureusement dans les mêmes formes, mais très précisément à chaque fois. Il n'y a pas de suppression de gendarmerie, évidemment, mais il y a épuration. On crée une commission d'épuration. Ça s'est fait en 1816, ça s'est fait en 1945. Elles sont constituées de la même manière, avec le préfet représentant le nouveau pouvoir politique, le nouveau commandant de la subdivision militaire et le nouveau commandant de la gendarmerie. Et on a, je veux dire, à 130 ou 140 ans de différence, on retrouve le même. Et à mon avis, ils n'ont pas fait de recherche historique pour savoir, mais ça s'est mis en place d'une manière quasiment automatique. Quant aux sanctions, elle procède dans les deux cas du même raisonnement à l'égard de ceux qui sont convoqués de la commission, devant la commission d'épuration. Avez-vous tenté de résister ou d'en faire le moins possible sous le régime précédent? Oui, alors on vous garde. Avez-vous seulement fait ce qu'on vous a demandé? Oui, alors on vous garde aussi. En avez-vous ajouté? Alors là, sanction. Sanction seulement disciplinaire, si l'ajout a été modéré. Sanctions plus sévères et allant là de l'exclusion à la prison, voire à la peine de mort. Et c'est toujours le même mécanisme. Mais pas de suppression de la gendarmerie. Alors, pour tenter d'approcher une réponse à la question initiale, autrement, encore un autre, on va prendre une autre démarche. Pourquoi certains pays ont-ils, je vous rappelle la question, ont-ils une gendarmerie, d'autres pas? On peut aussi examiner le rapport des gendarmeries à l'État et aussi à la nation. Sous un autre angle, quelle forme d'État? Centralisé ou fédéral? Il semble bien à l'observation que le système de la gendarmerie, pour reprendre l'expression de Napoléon, c'est un grand cybernéticien puisqu'il parle de système, le système de la gendarmerie, pour reprendre son expression, soit plutôt le fait des États centralisés. On regarde. La gendarmerie, moyen de l'État pour construire la nation et maintenir la cohésion sociale dans les pays où les tendances individualistes, claniques, régionalistes peuvent constituer des menaces de dissolution. Dans les États fédéraux, construits par induction, c'est-à-dire mise en commun par étage de valeurs communes, et la plupart du temps, il n'y a pas de gendarmerie. C'est sans doute l'une des explications à l'absence de gendarmerie dans les pays anglo-saxons, souvent de type fédéral. Pour rester au seul rapport des gendarmeries à l'État, on n'échappera pas, bien sûr, à la critique régulièrement avancée, parfois honnêtement, parfois aussi avec quelques arrière-pensées. Le système de la gendarmerie est-il compatible avec la démocratie ? Et pour bien orienter la réponse, on ne manque pas d'avancer des exemples d'excès de répression violente tout à fait authentiques et incontestables. Mais il est facile de citer des exemples des mêmes excès commis par des forces de police civiles, largement, et là on ne va pas entamer une compétition pour savoir lequel était le plus féroce. Je crois que ce débat est un faux débat. Ce n'est pas la nature civile ou militaire d'une force publique qui détermine son caractère démocratique. C'est seulement l'usage qu'on en fait. C'est l'usage que le politique en fait. Ainsi, par différentes approches, et je ne prétends pas les avoir toutes épuisées, parce qu'on pourrait reprendre sur la nation, sur les populations, sur le citoyen, des démarches du même type, mais je ne veux pas vous imposer de nouveau une communication supplémentaire, donc on va abréger. Donc, en croisant les éléments recueillis, on trouve des réponses qui sont en définitive beaucoup plus complexes et plus diversifiées qu'il n'y paraissait au départ. À notre question qui, elle, était simple, pourquoi certains pays ont-ils des gendarmeries et d'autres pas? Paradoxalement, ce qui est rassurant à la fin de ce colloque, c'est que nous n'avons pas totalement répondu à la totalité tous les aspects de la question. Alors il faudra recommencer, ou tout au moins poursuivre les recherches. Je terminerai donc sur ce vœu, que ce premier colloque international sur les gendarmeries du monde soit un point de départ pour développer entre nous une coopération de recherche fructueuse. Rendez-vous donc dans quelques années, et pourquoi pas ailleurs. Merci à tous, aux organisateurs, aux intervenants, aux présidents de séance, aux membres du comité scientifique, aux bénévoles, aux sponsors, à l'école militaire, bien évidemment, à Paris-Sorbonne, au professeur Jean-Noël Luc, à M. Hout, et à tous ceux que j'aurais pu oublier par avance, je m'en excuse. Merci à tous et bonne continuation pour la soirée.